France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Georges Simenon, il n'a jamais quitté l'actualité, ni de son vivant, ni après sa mort, ce qui est plus rare dans l'histoire des lettres francophones. Actualité éditoriale. Les éditions Omnibus publient deux volumes. Mes apprentissages, reportage 1931-1946, et Voyage autour du monde, qui réunit trois romans. Le train de Venise, Trois chambres à Manhattan, Le relais d'Alsace. Pas une année sans qu'un roman de Simenon ne soit porté au cinéma. Dans Soirée de Paris, sur la chaîne nationale, le 20 novembre 1955, était diffusée une adaptation radiophonique, donc, de La Boule Noire, roman situé aux États-Unis, affaire d'orgueil, d'obstination, obstination à vouloir être élu membre d'un club, le Country Club. Pourquoi vouloir être membre d'un club? Parce qu'on doit être membre du Country Club.
La Boule Noire de Georges Simenon. Adaptation radiophonique de Pierre Laroche. Avec René Lefebvre dans le rôle de Walter Higgins. Et Jacqueline Moran, Roger Pigot, Daniel Hivernel. Avec Madeleine Barbulé, Arlette Thomas, Daniel Modaille, Pierre Leproux, Gaëtan Jor, Raoul Marco, René Clermont, Maurice Nazil, Monique Morizzi, Suzanne Stanley, Inès De Nazaris, Gérard Gervais, Yves-Marie Morin, Evelyne Westman et Marcel Genia. Réalisation Henri Soubéran.
Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Olson. Bonjour, monsieur Tomasi. Bonjour, monsieur Blair. Bonjour, Kellogg. Bonjour, monsieur le juge. Oh, bonjour, monsieur Fairfax. Bonjour, monsieur Jackson. Bonjour, monsieur Wayne. Bonjour, monsieur Hotcomb. Bonjour, Crobusek.
Il est déjà plus de 7 heures. Je vous retarde, monsieur Higgins?
Non, il m'arrive souvent de partir plus tard. Et d'arriver avant 6 heures du matin.
Oui, ça fait des drôles de journées. Je vous jure qu'avec l'appareil de démonstration, un soulier 10 fois grandeur nature, rivé automatiquement par une broche géante, la vente réclame marchera le tonnerre.
Et j'espère que votre cirage est bon.
Oh, excellent! On en mangerait. Et monsieur Higgins, je vous enverrai une démonstratrice. Ah, vous m'en direz des nouvelles.
Ah!
Oh, une paire de... Et dehors, on croirait Marilyn Monroe.
Vous savez, ma clientèle est plutôt féminine.
Oui, oui, mais les hommes qui passent dans la rue.
Les supermarkets Fairfax tiennent surtout à la qualité des produits.
D'accord, mais la qualité des vendeuses.
Entrez.
Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur Higgins?
Non, Miss Carroll, non. Plutôt, si. Rendez-moi loin un service.
Avec plaisir.
Allez aux vins et liqueurs et demandez à monsieur Langol une bouteille de champagne. Oui, oui, pour moi.
Ah, tout de suite, monsieur Higgins.
Du meilleur, hein? Du champagne français.
Entendu, monsieur Higgins.
Allez, je ne veux pas vous retenir davantage. Hein. Bien entendu, ma maison vous réserve une commission de 2%.
Merci. Vous en ferez une ristourne à déduire du montant de votre facture.
Monsieur Higgins, c'est l'usage?
Peut-être, mais ce n'est pas le mien. Si j'acceptais de l'argent de mes fournisseurs, je ne serais pas digne de la confiance de monsieur Fairfax.
Monsieur Fairfax n'en saurait rien.
Oui, mais moi, je le saurais.
Voici votre champagne, monsieur Higgins.
Merci. Bonsoir, Miss Carroll.
Bonsoir.
Alors, on va boire un verre?
Ah, merci, je ne bois pas.
Mais ce champagne...
Ah, c'est une surprise que je veux faire à quelqu'un.
Jamais d'alcool? Même un petit coup?
Non, j'appartiens à l'église méthodiste.
Un cigare?
Je ne fume pas non plus.
Ah bah alors bonsoir, monsieur Higgins, demain. Une vente réclame du tonnerre qu'on va leur faire à vos clients, hein. Et une blonde. Mais une blonde! Oui, mais Ça vous intéresse pas non plus?
Non, pas du tout. Ben bonsoir, que tout soit bien en place pour l'ouverture.
Ok.
Les cochons. Si je les avais écoutés, je suis encore en train de balayer la succursale d'Old Bridge. Il est vrai qu'ils n'offrent pas de pot de vin aux balayeurs. Enfin, j'ai fait mon chemin malgré eux. Oh, ben je m'en vais. Bill sera peut-être encore dans son drugstore. Une blonde tout de même. Pauvre Nora. Est-ce qu'elle aurait du chagrin, Nora? Elles ont toutes du chagrin. Alors, mon chapeau. Mon champagne. Le dossier du groupe scolaire. J'oublie rien. Pourvu que Bill ne soit pas encore parti à la réunion.
Oh, Bill, j'avais peur que tu sois déjà parti.
Mais non, pourquoi?
La séance n'a pas lieu.
Pourquoi la séance n'aurait-elle pas lieu?
Je sais pas, moi, si un certain nombre de membres du comité n'étaient pas libres.
Non, il suffit que nous soyons quatre pour voter.
Vous serez quatre?
Cinq.
À quelle heure espères-tu connaître le résultat?
Ça, je sais pas, mon vieux. Ça se passe entre amis, nos réunions sont pas minutées comme un programme de radio. Tu seras chez toi?
Toute la soirée, je bougerai pas. Tu penses que j'ai des chances, Bill?
C'est dans le sac. Surtout maintenant que le colonel ne fait plus partie du comité. On l'a placé à la tête du comité des fêtes. Ça va être gai.
Ça t'ennuie pas d'être mon parrain une seconde fois?
Non, j'en suis enchanté, vieux. Compte sur moi.
À tout à l'heure? Au téléphone?
C'est ça, à tout à l'heure. Et embrasse Nora pour moi. Et les gosses?
Tu as fini tes devoirs, Archie?
Pas tout à fait, maman.
Alors dépêche-toi, on va dîner.
Bonsoir, Nora. Bonsoir, fils.
Bonsoir, Walter.
Bonsoir, Dad.
La petite est couchée?
Oui. Elle voulait t'attendre pour que tu lui racontes une histoire de pique, le cochon noir, mais elle a fini par s'endormir.
Tant mieux, je commence à ne plus savoir quoi inventer.
Si vous parlez tout le temps, moi, je peux pas faire mes devoirs.
Allons dans la cuisine.
Dave n'est pas rentré?
Je lui ai permis d'aller au cinéma.
Et Florence?
Elle est sûrement chez Lucille.
Ah bon? Tiens, mets ça dans le frigidaire.
Une bouteille de champagne? Qu'est-ce qui se passe?
C'est le premier mardi du mois.
Et alors?
Le comité d'admission du Country Club se réunit ce soir. Je me suis représenté. C'est tout l'effet que ça te produit?
Du moment que tu penses que c'est utile.
Oh, utile, mais... mais c'est très important pour notre situation à Williamson, pour notre standing. Tous les gens bien font partie du club.
Ils n'ont pas voulu de toi l'année dernière?
Un seul. Il n'y avait qu'une boule noire, une seule.
Mais comme il suffit d'une voix...
Non, mais cette année, Bill Carney est sûr du résultat. Tu verras, cet été, nous pourrons aller nous baigner avec les enfants à la plage privée. Et puis nous ferons du canot.
Tu sais bien qu'ils ont tous leur propre bateau.
Nous en achèterons un aussi.
Nous en avons encore pour 13 ans pour payer la maison.
C'est le cas de tout le monde.
Pas des membres du club. Ils sont riches.
Mais je t'assure, Nora, je dois faire partie du country club. Même chez Fairfax, ça me sera utile.
Alors souhaitons que tu sois élu.
Oui, je vais l'être. On dîne tout de suite?
Dans un quart d'heure.
Je vais aller passer la tondeuse à gazon. Si Bill téléphone, tu m'appelleras.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'elle a, Nora, ce soir? Pas de bonne humeur. Elle doit être fatiguée. Une grande maison, quatre enfants à élever, ça fait du travail. Et elle ne se plaint jamais. Elle aurait pu, elle, vivre autrement. Peut-être aurait-elle aimé vivre autrement. Moi, pas.
Tu as fermé le garage?
Oui, ne t'inquiète pas.
Quand elle m'a épousé, j'étais garçon livreur à la succursale d'Old Bridge. Elle savait ce qui l'attendait. Mais depuis, j'ai fait mon chemin. Sa famille non plus n'était pas riche. Minora était la plus jolie, la plus intelligente de la high school. Elle sortait avec Bud Tyler. Un beau garçon, Bud. Un mauvais sujet, mais les filles aiment ça. Après l'école, elle est partie à New York. Bert aussi avait disparu. Et puis, elle est revenue.
Toujours ici, Walter?
Mais oui.
Content?
Il paraît que je vais devenir chef de rayon des fruits et légumes.
Avec qui sors-tu?
Avec personne.
Tu pourrais peut-être m'emmener au cinéma un soir.
Je n'avais jamais osé l'aimer. Maintenant, nous sommes six. Avec un septième en route. Dans une maison neuve. Elle doit être heureuse. Moi aussi. Nous sommes heureux. Eh oui, j'ai fait mon chemin.
Walter!
C'est le téléphone?
Non, viens dîner. Tu n'as plus faim?
Non, merci.
Tu n'as presque rien mangé.
Mais si, ça va. Quelle heure est-il?
9h30.
Tu crois que c'est mauvais signe?
Mais non, pourquoi?
Je ne sais pas.
Bonsoir, mamie. Bonsoir, dad.
Bonsoir, fils. C'était bien, le cinéma?
Bon, Tarzan, comme d'habitude. Florence est rentrée?
Pas encore.
Allez, chez Lucille. Je me demande ce qu'elles peuvent faire toutes les deux des soirées entières sans garçon. Il y a quelque chose à manger?
Des sandwichs dans le frigidaire.
Merci. Soir.
Soir.
Je vais travailler un peu.
Toujours le groupe scolaire?
Oui. Tu peux prendre la TV si tu veux, ça ne me dérange pas.
Oh non. On commencera bientôt la construction?
Dès que la participation de l'État sera votée.
Tu sais ce qu'elles étudient?
Qui?
Florence et Lucille.
Elles étudient quelque chose?
Oui. Florence ne m'en a pas parlé, mais j'ai vu un cahier qui traînait dans sa chambre. Si elles restent si tard le soir, c'est qu'elles font de l'astronomie.
De l'astronomie?
Elles doivent s'étendre sur l'herbe pour regarder le ciel.
Allô? Oui. Oui, c'est moi. Alors? Ah. Oui. Oui, je comprends. Oui. Bonsoir, Bill.
Une mauvaise nouvelle, Walter?
Oui, il y a encore eu une boule noire.
Bonjour, docteur.
Bonjour, monsieur Olson. Bonjour, monsieur Tomasi.
Bonjour, monsieur Blair.
Bonjour, Kellogg.
Bonjour, monsieur le juge.
Bonjour, monsieur Jackson.
Bonjour, monsieur Blair.
Bonjour, monsieur Holcomb.
Bonjour, Krabusek.
Je les tuerai tous. J'ai passé ma vie à travailler pour la communauté. Et la communauté m'a rejeté sans se donner la peine de m'entendre. Je suis désormais un homme qu'on montre du doigt dans la rue. Et ma famille partage une honte que je n'ai pas méritée. Je les tuerai tous.
Tu as mal dormi cette nuit, Walter.
Oh, c'est rien, Nora. Des cauchemars.
J'espère que tu ne vas pas te tourmenter pour cette histoire de club.
Moi non.
Tu pars déjà?
J'ai une vente réclame de cirage à préparer ce matin. À tout à l'heure.
Ne viens pas déjeuner trop tard.
Entendu.
Hello, Walter.
Hello, Bill.
Déçu?
Un peu.
Alors je m'excuse d'avoir annoncé la nouvelle aussi brutalement hier soir. Je crois qu'à la fin, j'étais complètement rond. Personne ne parlait d'entrer en séance. Oh, c'est toujours pareil, une fois qu'ils sont installés dans les fauteuils du bar, il n'y a plus moyen de les en tirer.
Qui a voté contre moi?
Ah, ça, je l'ignore. Le vote est secret. Ah, c'est peut-être de ma faute. Étant donné la tournure que prenait la soirée, j'aurais peut-être dû remettre le vote à un autre jour. Quand je leur ai rappelé que nous avions à statuer sur une candidature, Olsen a eu l'air contrarié. Qui, m'a-t-il demandé? Walter Higgins, je lui ai dit. Alors quelqu'un a remarqué... Encore?
Qui?
Même si je m'en souvenais, j'aurais pas le droit de te le dire. Nos séances sont secrètes. Oh, j'ai fini par les faire passer dans la salle du comité. Quand j'ai aperçu la boule noire, j'étais furieuse. Oh, t'as dû te rendre compte par mon coup de téléphone. Ben, j'essaierai d'arranger ça à la prochaine séance.
Ah non!
Oh, ne me dis pas que tu prends la chose au tragique. Si tu savais, mon vieux, le nombre de gens qui ont reçu des boules noires, pas seulement une, mais parfois trois ou quatre.
À qui est-ce arrivé?
Ah, ça aussi, ça doit rester secret, mais... Entre nous, Moselli, le coiffeur, il s'est représenté 5 fois. Et ce n'est que par lassitude ou par pitié qu'on a fini par l'admettre. Peut-être aussi à cause de sa femme qui était malade à cette époque-là et qui essayait si fort d'être reçue dans les meilleures maisons.
Qui est-ce qui sait?
Que veux-tu dire?
Mais pour moi, que j'ai été refusé.
Oh, le comité, bien entendu.
Et encore?
Ah, personne.
Le barman n'était pas là?
Justin allait et venait comme d'habitude, mais ce n'est pas lui qui parlerait. S'il devait raconter tout ce qu'il sait, j'en connais qui oserait à peine se montrer dans la rue.
Pour Moselli, tu viens toi-même de me mettre au courant.
Tu me le reproches?
Pourquoi les autres n'en feraient-ils pas autant?
Écoute, vieux, j'ai des ordonnances qui m'attendent. Tu viens ici pour m'engueuler alors que j'ai fait tout mon possible pour te rendre service. C'est pas ma faute s'il y a au club quelqu'un qui ne t'aime pas ou qui peut-être n'aime pas les épiciers. Pour Moselli, tout ce qu'on avait contre lui était son métier de coiffeur. Je suis prêt à reparler de toi le mois prochain.
Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas.
Alors prends-en ton parti, je regrette, je suis désolé, mais pourquoi tiens-tu tant à faire partie du club? Tu ne bois pas, tu ne joues pas au golf 3 fois par an et tu n'as pas de bateau.
Au revoir, Bill. Bonjour, Miss Carroll.
Il est arrivé une créature, une blonde, pour la ventre réclame de cirage.
Ouais, je sais.
Nous n'avons pas reçu le poisson.
Vous avez téléphoné à New Haven?
Je viens de les avoir au bout du fil. Le camion a eu une panne et sera ici un peu avant midi.
Ah, bon. Donnez-moi les fiches roses. Si on me demande, je suis dans mon bureau.
Vous êtes souffrant, Monsieur Higgins?
Moi? Non. Pourquoi?
Je croyais.
Vous aviez tort, Miss Carroll. Je vais très bien.
Qui a voté contre moi? Les saligots. Et dire que je les prenais pour des notables. Des citoyens de premier choix. Intègres. Pas possible. Je les trouvais si bien parce que j'espérais devenir l'un des leurs. Parce que, dans le fond, je savais. J'ai toujours su. Oscar Blair, par exemple. L'homme le plus riche de Williamson. Un vieux salaud hypocrite qui mène une double vie. Si c'était pas lui, mais un de ses ouvriers, est-ce qu'on accepterait qu'il fasse 2 enfants à Mrs. Halston et qu'il laisse chez elle ses pantoufles, son pyjama et son whisky favori? Et sa femme, Mrs. Blair, qui fait celle qui ne sait rien et préside des œuvres de charité et me renvoie une pêche gelée au fond d'un cajot de 6 livres. C'est du propre. Et Bill Carney, c'était mon ami. N'empêche qu'il a acheté les terrains de la colline sud tout de suite après avoir été nommé sénateur, comme par hasard. Et après, on a percé la nouvelle route à grand trafic. Et Olsen, l'avocat, et le docteur Rogers,
Allô? Ici Higgins. Supermarket Fairfax de Williamson. Oui. Le camion de poisson sera là avant midi. Bon, merci. Allô? Pour demain, il me faudrait...
Et puis j'ai fait la guerre. J'aurais pu aller aux Philippines, en Afrique du Nord ou en Italie, comme les autres. C'était pas moi qui ai demandé à être envoyé comme sergent instructeur en Angleterre. 4 fois, oui, 4 fois j'ai demandé à être versé dans une unité combattante. 4 fois on a refusé. J'étais plus utile à mon poste. Et j'ai été blessé. par un V2 et décoré. Je n'ai pas honte de ma guerre. Comme au supermarket, comme dans ma famille, comme dans ma communauté, j'ai toujours fait mon devoir. Ils le savent bien. C'est pas moi qui ai demandé à entrer dans la Légion, ni l'année dernière, au Memorial Day, à emporter le drapeau. Pourquoi ne veulent-ils pas de moi, au club, les salauds? Qui ose voter contre moi?
Allô? Ici Higgins, Williamson. Non, pas encore. Le camion 22 est arrivé, oui, avec les conserves de viande. La vente réclame est en route depuis l'ouverture, oui. Ah ben, je verrai après le déjeuner.
Tu es rentrée tard hier soir, Florence?
Pas très, j'étais avec Lucille.
Tu reprends des légumes?
Non, merci, maman.
Ah, voilà ton père.
Bonjour.
Bonjour.
Belle journée.
Tu as faim? Il y a du rôti de porc.
Merci.
Bon, qu'est-ce qui t'a pris de te présenter une seconde fois après qu'ils t'ont fusé l'an dernier?
Quoi? Qui t'a parlé de ça?
Peu importe, puisque c'est la vérité.
Comment sais-tu que c'est la vérité?
Mais tu te rends pas compte qu'ils t'accepteront jamais.
Et pourquoi?
Est-ce qu'ils t'ont accepté l'an dernier?
Ben, c'est presque une règle, la première fois, de repousser une candidature.
On t'a raconté ça pour te consoler. T'ont-ils accepté cette année?
Il y a eu une seule boule noire.
Tu l'as vue?
Carnet me l'a dit.
Qu'est-ce qui prouve qu'il ne ment pas?
Laisse ton père tranquille, Florence. Tiens, Walter, bois ton lait.
Ah non, au contraire, c'est moi à présent qui insiste pour qu'elle parle.
Que veux-tu que je te dise?
Qui t'a mise au courant de ce qui s'est passé au club?
Tu tiens à le savoir?
Énormément.
Ken Jervis qui m'a taquiné tout le matin au bureau.
C'est bon à rien? Que t'a-t-il dit au juste?
Oh, qu'on s'est moqué de toi, qu'il n'y avait que toi de ne pas t'en apercevoir et qu'on s'attendait à ce que tu te présentes l'année prochaine à nouveau, puis l'année d'après et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on finisse par te prendre à l'ancienneté comme Moselli. Oh, je te demande pardon, j'aurais pas dû.
Tu n'aurais pas dû quoi?
Te répéter ça. Je déteste Ken qui prend un malin plaisir à me plaquer ses sales mains sur le corps chaque fois qu'il m'attrape dans un coin, sachant que j'ai horreur de ça. Ça m'a humiliée ce matin de donner prise à ses sarcasmes.
Non, c'est pas toi.
C'est pareil.
Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire partie du club tout comme un autre.
Il n'y pense plus.
Ça t'ennuie de me répéter mot pour mot les paroles de Jarvis?
À quoi bon, Dad? Oh, j'aurais mieux fait de me taire.
Tout de même!
Il est temps que je retourne au bureau, à ce soir.
Pourquoi m'embrasses-tu?
J'en avais envie.
Il ne faut pas attacher d'importance à ses réactions ces temps-ci, elle n'est pas bien.
Elle est malade?
Pas exactement, elle a de petits ennuis, comme la plupart des jeunes filles. Comment marche la vente réclame?
Bien. Tu penses aussi qu'on s'est moqué de moi?
Pourquoi se moquerait-on de toi?
Ben, je ne sais pas, mais quelqu'un a mis une boule noire.
Il y a partout des gens grincheux ou jaloux.
Florence paraît vexée.
Son âge, on se vexe d'un rien.
Regarde-moi, Nora.
Oui.
Réponds-moi franchement. Non, mais tu me promets d'être franche.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses de moi?
Tu sais bien, Walter, que tu es le meilleur des hommes.
Oui. Le meilleur des hommes, ça veut rien dire. Et à part ça...
Je ne comprends pas, tu es bon avec tout le monde. Tu passes ton temps à rendre service, tu es courageux. Tu te tues pour ta famille. Je t'aime, Walter.
Moi aussi.
Je sais. Alors à quoi bon s'occuper de ce que pensent les autres?
Et Florence?
Florence est encore une gamine. D'ailleurs, si tu veux m'en croire, Florence ne pense rien. Tu es très triste. Avoue que tu as envie de pleurer.
J'ai rien. C'est passé.
Je t'ai fait de la peine.
Qu'importe si les autres ne m'acceptent pas comme l'un des leurs, puisque tu es là, à mes côtés. C'est ce que tu viens de me dire.
Peut-être.
Il est temps que je m'en aille.
Tu m'en veux?
De quoi t'en voudrais-je?
Je ne sais pas.
Je n'espérais pas, quand je t'ai épousé, que tu serais comme ça. Pardon.
Walter.
Oui?
Si tu rencontres Carnet ou un des autres...
Non, je te promets d'être sage.
Est-elle heureuse avec moi? Elle ne s'est jamais plainte. Avant notre mariage, avant son séjour à New York, elle était gaie. Elle était gaie avant de me connaître, c'est bien ça. Elle semble comprendre l'attitude de Florence. Florence qui me méprise, je le sens. Elle a pitié de moi. Elle me prend pour un pauvre type. Pourtant, si je voulais être du club, c'était pour consacrer ma réussite. C'est fini. Fini. Je ne veux plus y penser. Ils m'ont remis à ma place, tous. Le comité d'admission, ma fille, ma femme. Ils pensent tous que je suis un pauvre type. Rien du tout.
Monsieur Higgins, on vous a demandé de Chicago, de la grande direction.
Monsieur Fairfax?
C'est une secrétaire qui m'a parlé, elle ne m'a pas dit pour qui c'était.
Passez-moi Chicago.
Monsieur Fairfax, lui, ne me prend pas pour un pauvre type. J'ai gravi tous les échelons, il m'a remarqué. Je dirige la succursale de Williamson, c'est pourtant une grande organisation, les supermarkets. Et Monsieur Fairfax y connaît en homme, lui. Il m'a pas laissé à balayer les parquets jusqu'à l'âge de la retraite.
Allô, ici Williamson.
Monsieur Higgins?
Oui?
Un instant, Monsieur Fairfax va vous parler.
Allô? C'est vous, Higgins?
Oui, Monsieur Fairfax. Oh, je m'excuse de n'avoir pas été ici quand vous avez appelé la première fois.
Pas d'importance. Vous avez aujourd'hui une vente réclame.
Oui?
Comment marche-t-elle?
Très bien jusqu'ici. Je peux vous donner les chiffres.
Ce n'est pas nécessaire. Je voudrais que, dans les jours qui suivent, vous vous efforciez de connaître les réactions des acheteurs.
Ah, je les interrogerai, comme d'habitude.
Non. Je désire un sondage plus poussé. Chaque succursale a reçu les mêmes instructions. Entre nous, et ceci doit rester secret, il est possible que nous rachetions l'affaire, qui est partie avec des capitaux insuffisants, mais qui paraît prometteuse. Vous me comprenez?
Oui, monsieur Fairfax.
N'en dites rien, évidemment, au représentant qui se trouve chez vous. Ne vous montrez pas trop emballé sur les résultats de la vente. Au besoin, pendant quelques jours, freinez-la un peu.
Ok, monsieur Fairfax.
Je compte sur vous, Higgins.
Et voilà, je compte sur vous, Higgins. Monsieur Fairfax compte sur moi, lui. Il ne me mettrait pas une boule noire, lui. Il me traite en égal, me met au courant de ses plans secrets. Alors que ma propre fille, chez moi...
Miss Carroll, les fiches de vente de ce matin.
Voilà, monsieur Higgins.
La vente réclame.
Très bien, voilà les chiffres. Je crois que la créature blonde a été pour beaucoup dans son succès. Surtout auprès des hommes.
Merci.
Monsieur Higgins, je voudrais vous dire quelque chose.
Je vous écoute.
Je ne sais si je dois...
Et vous devez.
Voilà. J'ai appris ce qu'on vous a fait. Et je voulais vous dire que j'en ai honte pour eux. C'est vous qui leur faisiez trop d'honneur. Mais au fond, je me demande si ça ne vaut pas mieux ainsi.
Hein? Je vous remercie, Miss Carroll.
Oh. Vous n'êtes pas fâché?
Non.
Si vous saviez comme tout le monde ici vous aime et vous respecte.
Ici. Pourquoi ici? Ici seulement, alors. Il n'y a donc ici que l'on me prend pour un homme?
Pas encore entré à la réunion?
Si, je viens de sortir fumer une cigarette. Il fait trop chaud là-dedans.
Qu'est-ce qui se passe?
Pas rien, Higgins lit son rapport, c'est plein de chiffres, j'y comprends rien.
Oh, les gros, ils savent ce qu'ils veulent et Higgins, il est pour eux.
Moi, ces histoires de groupe scolaire, ça me dépasse.
Hé, hey, parbleu, t'as pas de gosse?
Non, mais je paie mes impôts.
Hé, hey, tu crois que t'es le seul?
Non, on rentre. Eh, faut bien puisqu'on est là.
Qu'est-ce qui préside?
Le juge Griffith, comme d'habitude.
Ah bah allez, allez, on y va.
Quelqu'un a-t-il une observation à présenter? Je vous rappelle que la discussion s'ouvrira librement tout à l'heure.
Je suis pas d'accord. Oh,
ça ne m'étonne pas, Pershing. Qu'avez-vous à dire?
Mais je suis pas d'accord.
Peut-on savoir pourquoi?
Ben, je suis pas d'accord parce que je peux pas être d'accord du moment que vous êtes d'accord. Vu?
Très bien. Si notre ami et secrétaire Bill Carney veut bien nous résumer la situation, en attendant que vous ayez remis de l'ordre dans vos objections, ça nous évitera peut-être de perdre du temps. Bill, vous avez la parole.
Mes chers concitoyens, l'école publique de Williamson est devenue trop petite pour notre population. L'année dernière, nous avons dû louer plusieurs maisons particulières où les classes se font dans de très mauvaises conditions. Et il nous faut donc construire un nouveau groupe scolaire, plus moderne, en rapport avec l'importance grandissante de la ville. Notre ami Higgins vous a donné les chiffres. Nombre d'enfants en âge scolaire il y a 10 ans, leur nombre actuel, et celui que nous devons escompter dans 5, 10 et 15 ans.
Je suis pas d'accord. Mais je suis quand même pas d'accord.
Pour faire face à cette situation, deux solutions ont finalement été étudiées par le comité. La première est de bâtir un groupe scolaire à l'échelle des besoins d'aujourd'hui. C'est ce que nous avons appelé le plan de $400,000. Mais une seconde solution a été proposée et étudiée avec non moins de minutie, celle d'édifier dès maintenant une école qui, dans 10, dans 15 ans, répond encore aux besoins d'une population accrue. Il faudrait alors envisager un budget de $600,000.
Je suis pas d'accord.
Vous savez que dans les deux cas, le gouvernement fédéral paie une partie et l'État de Connecticut une autre part. Mais il n'en reste pas moins que le plus gros de la dette restera à la charge de la communauté et que nous devrons l'acquitter à l'aide des impôts communaux. Et c'est pourquoi le comité à l'unanimité se permet de vous recommander d'adopter le plan le plus économique, celui de $400,000.
Quelqu'un demande-t-il la parole? Monsieur Smith, nous vous écoutons.
Ces 10 dernières années, le prix de la construction, selon les indices officiels que j'ai consultés, est passé du simple au double. Et il continue à augmenter. Il augmentera encore, selon toute probabilité, dans les mêmes proportions. Or, dans 5 ans, dans 8 ans ou dans 10, le nouveau groupe scolaire, si on adopte le premier projet qui nous est soumis, sera à nouveau insuffisant pour la population de Williamson. Alors je voterai contre.
Monsieur Grobussek.
Je parle au nom des propriétaires.
Oui, on s'en doutait.
Parfaitement, des propriétaires. Qu'ils soient gros ou petits, fermiers ou seulement qu'ils possèdent une maison ou un lopin de terre. L'impôt communal étant basé sur la propriété, ce sont eux, en effet, qui feront en fin de compte les frais de la nouvelle école. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi on nous demanderait de nous ruiner pour des enfants qui ne sont pas nés. Que demain, une seule des industries de la ville se déplace, le projet numéro 1 lui-même deviendrait du jour au lendemain trop ambitieux pour une population réduite.
Mais j'ai 8 enfants et déjà 3 petits-enfants. Dans 10 ans, j'en aurai 20 pour le moins car mes filles tiennent de leur mère.
Quelqu'un a-t-il encore des observations à présenter? Ou des éclaircissements à demander.
Qu'on se dépêche seulement de bâtir une école. Petite ou grande, elle vaudra mieux que l'écurie actuelle.
Avant qu'on ne passe au vote, je voudrais qu'on me permette de présenter quelques objections.
Mais, cher Higgins, nous étions d'accord.
Je vous en prie.
La parole est à Monsieur Higgins.
Ces objections me sont venues en lisant mon rapport. Je ne crois pas que je puisse les taire. Il est exact, comme l'a fait remarquer M. Grobussek, que ce sont les propriétaires qui, par leurs taxes, paieront une grosse partie de la construction de l'école. Seulement, s'il n'existait pas d'école suffisante, les propriétaires, que ce soit d'usines ou de fermes, ne trouveraient pas la main-d'œuvre qualifiée, ni même la main-d'œuvre tout court, sans laquelle aucune entreprise ne peut exister. Il est donc normal qu'ils participent largement à la construction des groupes scolaires et que ces groupes scolaires soient construits pour l'avenir. D'ailleurs, il suffit d'étudier la différence des taxes entre le premier et le second projet pour comprendre que seul un égoïsme aveugle peut amener à se satisfaire de la médiocrité. Je vais me permettre de vous donner quelques chiffres. La taxe communale de 1954 pour un domaine de...
Est-ce que je me venge d'eux? Je jure que non, en mon âme et conscience. Je n'en veux à personne en particulier, mais je ne crois plus en eux. En me bannissant, ils m'ont obligé à m'ouvrir les yeux. Je ne suis plus des leurs. Et je leur signifie à la face de toute la ville. Mais est-ce que je vais avoir le courage de me servir de mon meilleur argument? Ils y verront la preuve que je n'agis que sous le coup de la déception, tant pis. Il faut maintenant que j'aille jusqu'au bout. Je ne peux pas faire autrement.
La différence entre le prix de revient du projet numéro 1 et celui du projet numéro 2 est inférieure au prix des nouveaux bâtiments que le Country Club a fait édifier l'an dernier pour le plaisir de ses 63 membres.
Nous sortons du sujet, mais nous ne sommes pas réunis pour nous occuper des affaires d'un club privé.
Non.
Et jusqu'à nouvel ordre, nous vivons encore dans le pays des libertés individuelles.
Ah, mais pardon, pardon. Comme le camarade Higgins l'a fort bien démontré, une fois de plus, les classes possédantes...
Ah, c'est Moscou. Quelqu'un désire-t-il encore la parole avant que nous passions au scrutin? Non. Eh bien, nous allons voter. Mais il est de mon devoir de vous annoncer que notre ami Walter Higgins vient de m'aviser que, quel que soit le résultat du scrutin, il a l'intention de donner sa démission. Que ceux qui sont pour le projet numéro 1 lèvent la main. Bien. Et preuve contraire. Que ceux qui sont adversaires du projet lèvent la main. Ah. Eh ben, je crois qu'il va être nécessaire de procéder à un pointage.
Vous m'excuserez, monsieur le président, je crois que je vais me retirer.
Au revoir, mon cher Higgins.
Bonsoir, Nora.
La réunion est déjà finie? Mais que t'est-il arrivé?
Trop tôt pour en parler. Nous saurons un de ces jours ce qui m'arrive.
Que veux-tu dire?
Ça dépendra de bien des choses. Enfin, j'ai donné ma démission.
Ta démission de quoi?
Du groupe scolaire.
Ils ont critiqué ton rapport?
Non.
Cesse de marcher de long en large, assieds-toi, regarde-moi. Je suppose, Walter...
Tu supposes quoi?
Tu n'as pas bu, n'est-ce pas?
Oh non, je n'ai pas bu. C'est pas à mon âge que je vais commencer. Je leur ai simplement donné ma démission après leur avoir servi deux ou trois vérités.
Que leur as-tu dit au juste?
Je leur ai expliqué pourquoi les propriétaires s'opposent au groupe scolaire numéro 2. Ah, et puis j'ai fourni des chiffres.
Je croyais que tu étais pour le premier projet.
J'ai été pour le premier projet.
Quand as-tu changé d'avis?
Ce soir, en lisant mon rapport.
Walter, tu as fait du scandale. Avoue-moi la vérité.
Je te l'ai avoué. J'ai exposé mes idées et cité des chiffres à l'appui.
C'est tout?
Ça ne leur a pas plu. Surtout que Turchin, qui est une sorte de communiste ou d'anarchiste solitaire, a commencé un discours incendiaire.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit?
Qui?
Carnet et les autres membres du comité.
Ah, rien? Ils ont accepté ma démission?
Ils ne te l'ont pas demandé?
Ah, ils n'y ont pas pensé. Ils l'auraient sans doute réclamé demain ou après-demain.
Pourquoi as-tu fait ça?
Eh bien, j'en sais rien. Je crois que ça devait arriver de toute façon. Je te jure que c'est moi qui ai raison. Leur projet finira par coûter plus cher que l'autre à la communauté.
Walter.
Ça ne t'intéresse pas.
Réponds-moi franchement. Tu leur as déclaré la guerre.
Peut-être le prendront-ils ainsi.
Tu as pensé à ta place?
Oui.
Tu te rends compte que tu risques de la perdre?
Oui.
Et que si tu la perds... Enfin, tu as pesé le pour et le contre?
Oui.
Vous vous disputez?
Mais non, Florence, pourquoi?
Je ne sais pas. Tu as l'air fâchée, Dad. J'étais à la réunion avec Lucille. Tu as dit à maman?
Oui.
Il a été très bien, maman. Très calme. Il a failli gagner la partie à 12 voix près.
Il l'a perdu quand même. Enfin, espérons que tout ça se passera au mieux. En attendant, allons dormir.
Tu es injuste avec Dad.
Je ne lui ai encore adressé aucun reproche.
Tu n'as pas l'air contente.
Personne n'a besoin de rien dans le frigidaire.
Merci.
Merci.
Tu sais, Dad, Lucille aussi a trouvé que tu étais courageux.
Voici les fiches de la matinée, Monsieur Higgins. La vente réclame marche toujours très bien.
Merci, Miss Carroll. Rien de particulier?
Rien, Monsieur Higgins. À part la créature.
C'est une bonne vendeuse.
Peut-être. On ne sait pas très bien ce qu'elle vend.
Mais du cirage, Miss Carroll. La cuisinière de Mrs. Blair a téléphoné sa commande?
Pas encore.
Ah!
C'est important, ça. Si elle n'appelle pas, c'est que Blair m'aura condamné. Très important. Si tous ceux que j'ai attaqués hier soir dans leurs intérêts se vengent en cessant de se servir chez moi, ce sera grave. Très grave. Ce sont mes meilleurs clients. Et il y a un autre market à Williamson. Un autre market qui n'appartient pas à la chaîne Fairfax. Et deux ou trois épiceries italiennes dans la ville basse. Si le mois prochain, les recettes baissent seulement de 20%, mettons 10, on m'enverra un inspecteur. Il saura tout de suite ce qui s'est passé. Monsieur Fairfax considérera que je l'ai trahi, et à mon âge, quelle situation trouverais-je? Personne ne m'emploiera ici. Les gens qui sont pour moi depuis hier, ce sont les pauvres. Et alors, je ne pourrai plus payer les traites de la maison et les versements mensuels sur l'appareil de télévision, le nouveau frigidaire, la voiture. Ah, c'est du propre. Pauvre Nora, elle n'aura pas tort de s'inquiéter. Plus de maison, plus de meubles, plus d'auto, plus rien. Mais je n'y pouvais rien. Il fallait que ça éclate. Ce sont des salauds. Des salauds. Ce sont eux qui m'ont forcé.
Allô? Supermarché de Fairfax, oui? C'est chez Blair. Je vous passe la sténo.
Ah! Et voici Mrs. Kobusek avec sa bonne.
Elle vient faire son gros marché du samedi. La cuisinière du juge est là aussi.
Ils sont tous là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent peut-être me montrer que mes attaques ne les atteignent pas. Qu'ils ne me prennent pas au sérieux. Que je compte pour du beurre.
Des salauds! Tous des salauds!
Comment? Qui ça, monsieur Higgins?
Rien. Rien, Miss Carroll. Personne.
Bonjour,
Archie. Salut, Dave. Bonjour, Isabelle.
Bonjour, papa.
Mais Florence ne déjeune pas aujourd'hui?
Non, elle est déjà repartie. Tu arrives tard.
Oui, c'est la ventre éclame qui m'a retardé.
Moi aussi, j'ai fini. Je peux aller au cinéma, Dad.
Ah, si ta mère le permet.
Qu'il fasse ce qu'il voudra.
Oui. Et toi, Dave, qu'est-ce que tu fais cet après-midi?
Si la pluie cesse, je m'entraînerai au baseball.
Qu'est-ce que tu as, Nora?
Rien.
Tu ne te sens pas bien?
Laisse partir les enfants. Sors, Isabelle.
Je peux mettre la télévision?
Si tu veux. Dave, reviens, je veux que tu prennes ton imperméable.
Il ne pleut presque plus.
Qu'est-ce que tu as?
On a téléphoné de Glendale.
Ah? Quand?
Juste au moment où je rentrais. C'est une chance que je sois arrivé à temps. Archie s'apprêtait à prendre la communication.
Elle est morte?
Non. Comme les autres fois.
La nuit dernière?
Ou très tôt ce matin, ils s'en sont aperçus à 10h. Ils nous ont téléphoné aussitôt.
Et ils ont averti la police?
Oui, mais tu sais comme elle est.
On t'a dit si elle avait de l'argent en poche?
Comment n'en aurait-elle pas? Elle parvient à s'emparer de tout ce qui traîne à sa portée.
Ah, hélas.
Tu es découragé?
Non.
Pense à nous, Walter.
Je dois aussi penser à elle. C'est ma mère. Ça devait arriver. Aujourd'hui. Où je lutte contre la ville entière. Où je me bats pour... pour ma dignité d'homme.
Bien, c'est pour toi.
Pourquoi faut-il, maman, que ce coup me vienne de toi?
Bien, c'est. M'as mis dans un asile.
Mais non, pas dans un asile, une maison de repos.
C'est pareil.
Ça me coûte les yeux de la tête. Et même là, tu trouves le moyen de boire et de voler.
Chacun pour soi. Quand j'aurai plus rien, il ne se trouvera personne pour me donner à manger.
Oh,
et tu... j'ai eu assez faim comme ça.
Mais tu sais bien, maman, que je ne te laisserai pas dans le besoin.
Oh, je ne sais rien du tout. Chacun pour soi, c'est la seule chose que la vie m'ait apprise.
Enfin, pourquoi as-tu pris ces deux cuillères à thé?
Ils en avaient trop. Et la preuve, c'est qu'ils ont mis un mois à découvrir que ces deux cuillères-là manquaient.
Où les as-tu cachées?
Cherche.
Enfin, docteur, qu'en pensez-vous?
Du point de vue strictement légal, votre mère n'est pas folle. Qu'elle vole sous le coup d'une impulsion quasi irrésistible, c'est certain. Mais il est certain aussi qu'elle possède le sens du bien et du mal, de ce qui est permis, de ce qui est défendu, et qu'elle met en malin plaisir à enfreindre la loi.
Pourquoi fais-tu ça, maman?
Parce que...
Mais tu ne sais pas que c'est mal.
Oh, tu m'en parleras quand tu auras mon âge. Ou plutôt, tu ne m'en parleras pas, car tu seras mort avant ça.
Tu ne m'aimes pas.
Je suis ta mère. Louisa Fuchs, née à Hambourg, Allemagne, il y a 68 ans. Mon père travaillait au chantier maritime à Altona. C'est là qu'il s'est tué, en tombant d'un échafaudage, un jour qu'il était ivre, laissant 8 et 9 orphelins.
Quel âge avais-tu à cette époque-là, maman?
15 ans. Il y en avait 2 plus âgés que moi, Hans et Emma.
Mais ta mère vivait encore?
Oui, on l'avait mise dans un sanatorium, car elle n'avait pour ainsi dire plus de poumons. 2 de mes frères étaient tuberculeux aussi, et 1 des 2 est mort, quand j'étais encore en Allemagne.
C'est Emma qui vous a élevé?
Ah, on verra bien que t'es américain.
Elle ne s'est pas occupée de vous?
Elle avait tâché de s'occuper d'elle-même, de gagner de quoi manger.
Comment?
Comme les filles gagnent leur pain autour des chantiers d'Altona.
Et toi?
À 15 ans, je suis entrée comme serveuse dans un café des quais. À 18 ans, je suis parvenue à m'embarquer avec une amie, une grosse fille qui s'appelait Gertrude. Nous sommes arrivés à New York à une époque où la vie n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui pour 2 filles qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Et pendant 1 an, nous ne sommes pas allés plus loin que le quai où notre bateau avait accosté. On nous a embauchés dans le même hôtel.
Et après?
Après, j'ai voyagé, Chicago, Saint-Louis, la Nouvelle-Orléans.
Et tu buvais déjà?
Quand j'avais soif. C'est à Old Bridge, une petite ville du New Jersey, à 45 milles de New York, que j'ai rencontré ton père. J'étais serveuse à l'auberge du Devonshire quand Higgins m'a épousée.
Et que faisait-il, maman?
Oui, il était voyageur de commerce.
Oui, il vendait quoi?
Ça dépendait. Ah, il valait pas mieux que moi.
Il a fait de la prison?
Peut-être. Après, peut-être avant, mais pas tant qu'il a été avec moi. Hein? Il est vrai qu'il était si peu avec moi. Il s'en allait pour 2 ou 3 mois, m'envoyait parfois un mandat ou une carte postale. Une fois, je suis resté 1 an sans nouvelles. J'étais en prison quand il est revenu. Et c'est lui qui m'en a tiré.
Tu avais volé.
Ah, on m'a toujours cherché des ennuis. Et ça continue. 9 mois après, tu naissais. Et tu avais une si grosse tête que j'ai failli en mourir et que j'en restais infirme pour le reste de mes jours. Et puis, un jour, ton père est parti et nous abandonnons tous les 2.
Comment as-tu vécu?
Je faisais des ménages à gauche et à droite. Parfois, je m'embauchais dans un bar ou un hôtel des environs. Je te confiais à une voisine.
Oui, tu disparaissais plusieurs mois.
Et comme ton père.
J'avais 8 ans quand je suis allé pour la première fois te réclamer au poste de police. À 16 ans, j'étais presque toujours seul. Je faisais le ménage, la cuisine, j'étudiais.
Oui, mais si tu crois qu'ils permettront aussi de Louisa et de cette canaille de Higgins de devenir un monsieur. Mais quand tu t'es marié, mon fils, je suis venu vivre avec vous.
Ouais, pour nous faire souffrir.
Peut-être.
Tu continuais à boire, à voler, et n'importe quoi, les objets les plus encombrants, les plus difficiles à cacher. Et quand on t'arrêtait...
Prouvez que je n'allais pas vous payer.
À la fin, le district attorney m'a convoqué.
Monsieur Higgins, il est temps que vous fassiez en sorte que cela cesse. Cette comédie ne peut pas durer éternellement.
Vous savez bien qu'elle est irresponsable.
Voulez-vous mon avis? Cette femme-là n'est pas plus folle que vous ou moi. La vérité, c'est qu'elle a décidé de rendre aux gens, à vous et à votre femme en particulier, tout ce qu'elle a subi dans la vie. Et elle continuera jusqu'au bout.
Que me conseillez-vous?
Ce que vous ferez ne me regarde pas, c'est votre affaire. Je vous demande seulement de nous débarrasser d'elle. Faute de quoi, la prochaine fois, je la fourre à l'asile et tout sera dit.
Il y eut une prochaine fois.
Je ne le ferai plus, Walter. Je te jure que je ne le ferai plus. Je suis quand même ta mère. Je t'ai portée dans mon ventre. Et maintenant, je ne suis plus qu'une pauvre vieille femme que les gens montrent du doigt dans la rue. Je sais que je te fais honte et que je te coûte de l'argent. Mais par pitié, sors-moi d'ici. Il ne me laisserait même pas mourir en paix. Et où j'ai peur. Comprends-tu, Walter? J'ai peur. J'ai peur.
et je t'ai fait sortir de l'asile. J'ai consulté des psychiatres.
Si nous n'étions pas obligés ici de travailler comme des brutes, presque à la chaîne, je prendrais votre mère dans mon service et j'étudierais son cas à fond, car c'est une des personnalités les plus extraordinaires que j'ai rencontrées. Mais c'est impossible, je n'ai pas le temps. Si vous avez les moyens et si vous êtes disposé à supporter la dépense, je puis vous recommander une excellente maison de repos à Glendale.
Il y a 11 ans déjà.
J'ai été sage.
Tu as continué à voler, à boire, malgré toutes les surveillances. Tu t'es évadé 3 fois. Tu es venu jusqu'ici, en autostop.
Une mère a bien le droit de venir embrasser son fils.
Et on t'a arrêté pour vol à New York.
Et j'allais acheter une bouteille de whisky.
Avec quel argent?
Je me souviens plus.
Walter, tu pleures?
Non.
Elle ne viendra peut-être pas jusqu'ici. On l'arrêtera peut-être avant. Et puis, elle ne connaît pas notre nouvelle adresse.
Elle aura vite fait de la trouver.
Que pouvons-nous faire?
Rien. Attendre. Et demain, c'est dimanche.
Oui, si tu veux.
Est-ce que je peux louer un bateau cet après-midi, Dad?
Avec qui as-tu l'intention d'aller sur le lac?
Avec Johnny et Philippe. Ils ont la permission de leurs parents et on paiera chacun sa part. J'ai l'argent.
Moi aussi, Dad!
Non, pas toi, Isabelle. Tu iras sur le lac quand tu sauras nager.
Je sais nager?
Pas suffisamment. D'ailleurs, l'eau est encore trop froide.
Je n'ai pas envie de me baigner, mais d'aller en bateau.
N'insiste pas, Isabelle, c'est non.
Qu'est-ce qu'il y a à manger?
Du poulet avec de la purée de pommes de terre, comme tous les dimanches. Walter.
Oui?
La vis du four vient encore de sauter. Tu ne veux pas la ranger?
Voilà.
Il ne s'est rien passé encore.
Ça ne durera pas. J'ai craint de l'avoir entrée dans l'église pendant l'office.
Tais-toi.
Où peut-elle être en ce moment?
Chut. Dad.
Oui, Florence.
Tu sais qui a mis la boule noire?
Non.
C'est Bill Carney.
Carney? Lui qui s'est offert à me servir de parrain? Oh, c'est impossible. Qui te l'a dit?
Lucille. Au bureau, elle a entendu une conversation téléphonique entre Olsen et Carney.
Elle ne t'a rien raconté d'autre?
Non. J'ai toujours pensé que Carney ne t'aimait pas.
Pourquoi?
Sans raison précise. Peut-être parce qu'il te sent différent.
Ne pensons plus à ça.
Comme vous voudrez.
Et encore, lui, Carney, il ne connaît pas ma mère, Louisa Fuchs. Comment, avec des parents pareils, ai-je pu penser à faire partie du country club?
Allô, oui? Oui, Walter Higgins. Il y a une heure? Ah non, je me trouvais à l'office. Je dis, je me trouvais au service. Au service religieux. Vous m'entendez mal? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui, c'est exact. 68 ans? Elle en paraît davantage, oui. Ah, ça correspond. Je m'attendais d'ailleurs à une nouvelle de ce genre. Non, je ne peux pas vous expliquer pourquoi par téléphone. Oui, je pars dans quelques minutes, le temps de sortir la voiture du garage. Je paierai les frais, oui. Vous dites?
Ah, je ne sais pas, c'est dimanche, les routes sont probablement encombrées. Il faut bien compter 3 heures.
J'éviterai la traversée de New York, ça gagnera du temps. Bon, je vous remercie, madame.
Qu'est-il arrivé?
Elle s'est fait renverser par un bus.
Où?
À l'entrée d'Oldbridge.
Tu pars tout de suite, je vais te faire des sandwichs. C'est l'hôpital qui t'a téléphoné?
Oui.
Son état est grave?
Ils ne savent pas encore.
Elle a en tout cas conservé sa connaissance puisqu'elle a pu donner son nom. Comment se sont-ils procuré notre adresse?
Ils ont appelé notre ancien numéro, on leur a dit où nous habitons.
Conduis prudemment.
Oui, embrasse les enfants.
Et moi, tu ne m'embrasses pas?
Oh, pardon.
Courage, Walter.
Merci.
Rendez-vous.
Mrs. Higgins. Louisa Higgins.
Vous êtes sûre du nom?
À moins qu'elle se soit inscrite sous son nom de jeune fille.
Dans ce cas, c'est Louisa Fuchs.
Qui vous a dit qu'elle est ici?
L'hôpital m'a téléphoné ce matin dans le Connecticut pour m'en avertir.
Un instant. Vous avez une nommée Higgins ou Fuchs qui serait arrivée ce matin? Ce nom-là n'est pas porté aux entrées. Vous êtes certain qu'il s'agit de cet hôpital-ci?
Ah oui, on m'a téléphoné d'ici.
Qui? Vous savez qui vous a téléphoné?
Une dame. J'ai cru comprendre que c'était une infirmière.
Je suis celle de garde et celle qui était de service ce matin est partie. Quelle heure était-il quand on vous a appelé?
Un petit peu après-midi.
Moi, je suis arrivée à 1 heure. Il s'agit d'une opération?
Je suppose, on m'a parlé d'un accident.
Tu as des cigarettes, Lisbeth?
Il y en a un paquet dans mon sac, prends-le. J'en ai un autre dans le tiroir. Tu n'as pas entendu parler de quelqu'un qui a eu un accident ce matin?
Ah, la vieille! Celle qui a été renversée par un bus.
Ben, c'est ça, oui.
Elle est ici? Mais comment se fait-il que son nom ne figure pas aux entrées?
Ça, ma petite, c'est pas mon affaire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est arrivée par la porte des ambulances.
Dans quelle salle l'a-t-on mise?
Bon, je ne pense pas qu'elle soit en salle. On l'a transportée à la chirurgie d'urgence. Venez avec moi, monsieur. Nous allons voir l'infirmière chef.
Vous vous appelez Walter G. Higgins?
Oui, madame.
Louisa Fuchs, c'est votre mère? C'est à vous que ma collègue a téléphoné ce matin à Williamson, dans le Connecticut?
Oui, madame.
Je suppose que votre mère ne vivait pas avec vous.
Non, elle était pensionnaire dans une maison de santé de Glendale.
C'est le docteur Anderson?
Oui.
Folle?
Bon, les médecins ont pensé qu'elle serait mieux là.
Elle s'est échappée. Il faudra tout à l'heure que vous veniez avec moi au bureau pour les papiers. La police aussi désire que vous alliez les voir afin de fournir les renseignements nécessaires.
Elle est morte?
Vous l'ignoriez? Je croyais qu'on vous avait téléphoné.
Oui. Ben, on m'a pas annoncé qu'elle était morte. On m'a dit qu'il n'était pas encore possible de dire si...
Elle est décédée à 12h25.
Elle a parlé?
Je n'étais pas ici. Si vous voulez attendre quelques minutes, le docteur Hutchinson, qui est le garde, va bientôt sortir de la salle d'opération. Tenez, le voici. Docteur?
Oui, madame Brown.
C'est le fils de la femme qui est morte à 12h25. Il paraît qu'elle s'est échappée de la maison de santé de Glendale où elle était pensionnaire.
Elle buvait?
Oui.
Oui, c'est ce que j'ai pensé. Elle empestait l'alcool. Elle a dû avoir un étourdissement en traversant la rue. Sinon, l'accident ne s'expliquerait pas et il faudrait conclure à un suicide.
Suicide? Pourquoi?
Parce que selon la police, il n'y avait aucune circulation, à part ce bus-là dans la 32e rue Est. Vous connaissez?
C'est là où je suis né.
Alors vous savez que la rue est assez large.
Elle a souffert?
Quand on l'a amenée, elle souffrait certainement. Mais elle n'en laissait rien voir. Ce serait exagéré de prétendre qu'elle souriait. Pourtant, je l'ai endormie presque tout de suite et...
Elle avait sa connaissance?
Oui. Elle a donné votre adresse au policeman qui l'accompagnait.
Où a-t-elle été blessée?
Fracture du crâne, de l'épaule gauche et du bassin. Elle a perdu beaucoup de sang et j'ai tenté la transfusion. C'est pendant celle-ci qu'elle a succombé.
Elle n'a pas laissé de message?
Pas en dehors de votre nom et de votre adresse. Si vous le désirez, l'administration vous remettra ses vêtements. Quant au reste, si elle avait un sac à main ou quoi que ce soit de personnel, vous le trouverez au poste de police. Je suppose que vous avez besoin de lui, Mrs. Brown.
Oui, docteur.
Est-ce que je peux la voir?
Venez avec moi. C'est bien elle?
Oui.
Venez au bureau. Et ensuite, ils vous attendent à la police.
Comment écrivez-vous Altona?
A-L-T-O-N-A, sergent.
Merci. Je suppose que vous n'ignorez pas qu'elle avait ici un dossier assez chargé.
Je suis au courant.
Quelle est encore votre profession?
Gérant du supermarché de Fairfax, à Williamson.
C'est la même chaîne que celui d'ici?
J'ai débuté à la succursale d'Oldbridge.
Vous réclamez le corps?
Je prends la charge des obsèques, oui.
À Williamson?
Ah non, ici.
Il y aura une petite note à payer. Nous avons retrouvé dans son sac à provision 2 demi-bouteilles qui portaient une étiquette de chez Bowman. J'ai vu Bowman, les bouteilles lui ont été volées.
Non, je paierai.
Remarquez que vous n'y êtes pas obligé, mais c'est préférable. Le sac qui était neuf a dû être volé aussi, mais personne n'a encore porté plainte. Nous sommes dimanche et les magasins sont fermés. Passe-moi le sac, Fred. C'est tout ce que nous avons trouvé. Pas de portefeuille, ni de porte-monnaie, pas d'argent.
Vous n'avez pas pu savoir comment elle est venue de Glendale ici?
Pas à pied, en tout cas. Ou bien elle avait un peu de monnaie pour prendre le bus, ou bien elle a fait de l'autostop le long de la route.
À quelle heure l'accident a-t-il eu lieu?
10 heures.
Si elle est allée chez Bowman, ça ne peut être qu'hier.
Le samedi, le magasin reste ouvert jusqu'à 10 heures.
Oui, je sais. Je me demande où elle a passé la nuit.
Ah, ça, mon vieux. Signez ici, à gauche, là, en bas de la page. Vous verrez les pompes funèbres.
Oui. Je suppose qu'elle n'a rien dit à l'agent qui l'a ramassée.
Celui qui l'a conduite à l'hôpital n'est pas ici, mais il ne mentionne aucune déclaration dans son rapport.
Je vous remercie, sergent.
De rien.
Voilà, tout est réglé. J'ai plus qu'à rentrer chez moi. Nora doit m'attendre. Paul Bridge n'a pas tellement changé depuis 15 ans. Dans le temps, je faisais des livraisons dans cette rue-là, avec ma camionnette. Et voilà le supermarché de Fairfax. Tiens, eux aussi font la vente réclame de cirage que j'ai en ce moment à Williamson. Ouais, toutes les boutiques sont fermées, c'est dimanche. Tiens, Favalelli, fruits et primeurs. Il existe toujours, ce vieux Favalelli. Je vais acheter du parmesan. 32e rue. Ma rue. J'y ai couru quand j'étais gosse. Ma maison, la maison où je suis né. Oh, ce qu'elle est laide. Encore plus laide, plus sale. Et c'est là aussi que... Il y a encore des éclats de verre. Le bus a dû casser une de ses vitres. Ah, oh, ça... Du sang. Pauvre vieille. Juste en face de notre maison. Elle a dû le faire exprès. Voilà nos fenêtres, au 3e. Qui peut bien demeurer là maintenant? Et ce type a sa fenêtre au 1er. C'est là où vivait. Mais. On dirait. Il me regarde lui aussi. Oh non, c'est pour lui.
Walter! Hé, hey, Walter!
Chanty!
Ah! C'est toi, hein? C'est bien toi! Allez, monte-donc! Tu te souviens du chemin?
Oui, mais.
Ah, y a pas de mais! Allez, monte-donc! Je te présenterai ma femme!
Je viens!
J'avais oublié l'odeur. Ce que ça pue. Je devrais téléphoner à Nora. Elle doit s'inquiéter.
Hey, entre, mon vieux! Ah, ça fait tellement plaisir de te retrouver. Ah, ben, tu connais pas Yvonne?
Bonjour, madame.
Eh ben, Yvonne, fais pas la gueule à mon ami, hein? Ça va tourner mal.
Je fais la gueule à personne.
Ben, ça vaut mieux. Oh, fais pas attention, Walter. Ben, c'est bien, parce qu'elle est même pas peignée. Un peu souillon, mais c'est la bonne fille. Elle suce pas la peau à se laver, hein. Passe-nous le canti, Yvonne. Ah! Je me demandais qui était le type qui reluquait la façade comme s'il cherchait un logement à louer. Quand je me suis aperçu que c'était toi. Ce vieux Walter. Allez, assieds-toi. On va trinquer pour fêter ça.
Merci.
Je me suis souvent demandé ce que tu étais devenu. Non, c'est pas tous les jours qu'on rencontre des anciens camarades. On dirait qu'ils sont tous éparpillés à travers les États-Unis. Et puis je parle pas de ceux qui sont morts. À ta santé.
À la tienne.
Fameux, hein?
Oui, il est très bien.
Regarde, ça et les spaghettis, c'est ce que les Italiens nous ont apporté de mieux. Tiens, à propos d'Italien, tu te souviens d'Alfonsi? Mmh. Tu le crois, si tu veux, il est devenu curé. Ouais, oh, ça fait un drôle d'effet quand on l'a connu qui se cachait derrière les poubelles de l'allée avec les filles. tu vas bien, toi? T'as pas bonne mine, hein?
Si, ça va.
Tant mieux, mon vieux, tant mieux. T'as l'air d'avoir prospéré, t'as un beau costume.
Oh, je vais pas me plaindre.
Pas nous non plus. Hein? Pas vrai, Ben?
Si tu veux.
Non, je dis qu'on a une belle situation, mais tu comprends, on se la fout le pas, puis on mange alors comme des cochons. Hein, Ben? Ouais. Étais-tu encore à Oldbridge quand ma mère est morte?
Je ne m'en souviens pas.
Ah, ben, prends un verre. Allez, si, prends un verre, il est bon, allez. À ta santé. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, ben, quand ma mère est morte, le vieux a décidé qu'il en avait assez de la ville. Il est allé vivre à la campagne, en Caroline du Sud, avec un beau-frère. Alors, j'ai conservé le logement. Et je crois qu'Yvonne et moi, on sera les derniers à habiter la baraque. Voilà 3 ans que la ville a décidé de la démolir. Ils n'ont pas commencé les travaux, ça peut durer longtemps encore. Ben, y a la moitié des locataires qui sont partis. Tiens, le logement que tu habitais, ben, il est vide. Et les gens, ils sont chauffés avec les portes. C'est bon, hein? Hein? T'as des enfants?
Oui, 4.
Bravo! On en a un, nous aussi. Il est dans la marine. Alors, comme son départ nous laissait un lit vide, j'ai proposé à un camarade qui est veuf et qui a personne au monde de venir vivre avec nous. Ah, tu le verras pas, tous les dimanches, il est allé faire son plein au bar du coin. Il viendra pas avant le milieu de la nuit.
Dis-moi, tu travailles?
Ah, tu parles? Un chopé, pas tant, hein? Je conduis un camion du ramassage des poubelles. Ah, ouais, ça paraît dégoûtant à première vue. Mais on s'habitue. Puis c'est pas fatigant. On fait tous les jours la même tournée, et puis ça paye bien. Le seul ennui est de se lever très tôt le matin. Disons Gonzalez. Mais Gonzalez, tu te souviens de Gonzalez?
Vaguement.
Mais si, Gonzalez! Un jour, il t'a flanqué une telle raclée que t'es resté toute la semaine sans aller à l'école.
Ah, j'avais oublié.
Eh ben, mon vieux, il a descendu un flic à Philadelphie. Ils l'ont condamné à mort, ils l'ont pendu. Ah oui, on voit tout par ici. Bon, bah, à la tienne, allez. Tiens, pour pas remonter plus loin que ce matin, il y a une vieille poivrotte qui s'est jetée sur un autobus. Je te prie de croire que c'était pas beau. J'étais à la fenêtre, j'ai tout vu comme je te vois. Oh, où tu vis?
Dans le Connecticut.
Ah, oh, ben, il paraît que c'est plein de gens riches par là. Ah, je suis jamais monté plus haut que New York et j'aurais plutôt tendance à aller vers le sud, moi. Vers le soleil, oui. Yo, Yvonne, si on l'invitait à manger un morceau avec nous?
Dîner sera pas prêt avant 1 heure.
Il faut que je parte.
Mais t'as une voiture?
Oui, je l'ai laissée au coin de la rue.
Alors, en somme, t'as tenu à venir voir la maison, quoi. Ben, je vais te dire une chose, moi, j'y tiens, moi, cette vieille caserne. Puis quand faudra que je m'en aille, je la regretterai, hein.
Il faut que je m'en aille.
Ben, t'as bien une minute, là, il reste.
Oh, je te jure, Shorty, que je dois...
Oh! Ah! T'as entendu, Yvonne? Il vient de dire Shorty comme avant. Oh. Dis donc, tu veux pas monter et jeter un coup d'œil à ton ancien logement?
Non.
Bon.
Au revoir, madame.
Ouais.
Au revoir, Shorty.
Ben, à bientôt, mon vieux. Et puis, reviens nous voir, hein?
Il faut. Ouais, il faut absolument. Je téléphone à Nora. Je suis malade. Ouais, il faut que je lui téléphone. Je suis à Old Bridge, assis sur le pas d'une porte de la 32e rue Est. Et puis j'en peux plus. Oh, je sais plus que faire. Ouais, il faut revenir me chercher. Ah, mais il faut d'abord que je prenne quelque chose. Quelque chose de fort.
Qu'est-ce que ce sera, scotch, bourbon ou rye?
Rye! Merci. Un autre. Merci. Shorty l'a fait exprès, comme ma mère, pour m'embêter. Oh, je devrais téléphoner. Il conduit un camion d'ordures et il mange comme un cochon. Il a l'air content. Ah, oh, c'est pas possible. Oh, pourvu que je puisse conduire jusqu'à Williamson. Et là, attention, il a failli m'accrocher, celui-là. Chauffeur, vermine. Oh, je veux rentrer. Il faut que je rentre. Heureusement, j'ai une bouteille de whisky. Nora, où es-tu? J'aurais dû téléphoner. Oh, il faut que je sois prudent. Très prudent. Indispensable. Tous des salauds. Ma mère aussi. Pour en dire de mal, elle est morte. Oh, je suis malade. Oh, j'arriverai donc jamais.
Nora. Nora. Nora, tu es là?
Oui. Tout va bien.
Pardon. Ma mère est morte.
Je sais. J'ai téléphoné à l'hôpital d'Oldbridge.
Oh, je suis malade, Nora.
Mais j'ai téléphoné au docteur aussi. Il passera te voir à 4 heures. C'est pour cela que je t'ai éveillée.
Comment est-ce que je suis rentrée ici?
Tu as arrêté l'auto devant la porte et tu n'as plus bougé. J'ai fait lever Florence et Dave et on t'a transporté dans ton lit.
Ils n'ont rien dit?
Ils étaient impressionnés, un peu effrayés.
Je ne recommencerai pas. J'ai compris. J'ai tout compris.
Quoi?
Tout.
Tu as de la fièvre.
Vois-tu, Nora? C'est un jeu. Mais il faut en connaître les règles. Il faut se conformer à la règle du jeu. Sinon, on rend la position des autres impossible. Et si Bill Carney a voté contre moi, il a eu raison, je ne lui en veux pas.
Calme-toi, le docteur va venir.
Tiens, regarde, le docteur. Il ne croit pas sans doute à la moitié des remèdes qu'il prescrit. Et il parle de guérison à des mourants. Mais c'est la règle du jeu. Il doit inspirer confiance. C'est comme Bill Carney. Il est obligé de laisser croire qu'il s'est fait envoyer au Sénat par dévouement à la communauté.
Je t'en prie, Walter.
Et Monsieur Blair, l'image de la réussite, c'est de la prospérité, Monsieur Blair. Hein? Et pourtant, s'il était heureux, il n'irait pas chez Madame Lancaster lui faire des enfants qu'il n'a pas le droit de reconnaître. Et pourquoi boit-il du matin au soir? Nora, j'ai mis le temps, mais j'ai compris.
Oui, oui. Walter, prends un peu de tisane.
Crois-tu que j'étais bête? Parce que j'avais cru. J'avais cru posséder quelques bribes de vérité. J'ai été leur crier ma révolte. Moi. Moi. Mais alors, j'ai qu'à retourner vivre 32e rue Est avec Shorty, boire du Chianti, manger comme un cochon, conduire son camion d'ordures, et coucher avec Yvonne.
Walter, tu délires.
J'ai jamais été plus lucide. Est-ce qu'ils savent, pour ma mère?
Le journal local. Tiens, regarde.
Mrs. Louisa Higgins, née Fuchs, la mère de notre distingué concitoyen Walter Higgins, est décédée dimanche dernier à Holbridge, New Jersey, des suites d'un accident. Après ce choc, notre ami Higgins souffre d'une dépression nerveuse. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Ben voilà. Voilà la règle du jeu. Eux, ils savent. Ils ont téléphoné, tu penses? Sois bien tranquille. Ils n'éprouvent pas le besoin d'imprimer la vérité. Ils sont discrets. Ils se taisent.
Voyons, Walter.
Sois tranquille, Nora. Désormais, je ferai comme eux. C'est pas courageux. Oh, parfois, je me sentirai bien seul, mais j'ai pas le choix. Personne n'a le choix. C'est le prix à payer. C'est ça qu'on appelle devenir un homme. Ah ben, tant pis. Je deviendrai un homme.
Mais tu es le meilleur des hommes.
Ouais, bien sûr, Nora. Mais c'est fini. Fini. J'aurai plus jamais faim. Je ne retournerai pas dans la 32e rue Est avec Shorty.
Qui est Shorty?
Rien. Et puis, Nora, tu comprends? Si parfois le dégoût me prend, eh ben, je ferai comme eux. Tu l'as pas remarqué? Ils boivent tous.
Walter, tu m'as juré que tu ne recommencerais pas.
Oh, mais il s'agissait pas de ça. Et tu verras. Il n'est pas impossible qu'un jour, après m'avoir observé un certain temps, ce soit eux, les Bill Carney et compagnie, qui me demandent d'entrer au Country Club. Je paierai le prix qu'il faudra.
Mais quel prix?
Ah, ça ne regarde que moi.
Bonjour, Carney. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Olson. Bonjour, monsieur Tomasi. Bonjour, monsieur Blair. Bonjour, Kellogg. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, monsieur Fairfax. Bonjour, monsieur Jackson. Bonjour, monsieur Wayne. Bonjour, monsieur Vodkin. Bonjour, Cobusek.
Dans le cadre des soirées de Paris, vous venez d'entendre La boule noire de Georges Simenon, adaptation radiophonique de Pierre Laroche, avec René Lefebvre dans le rôle de Walter Higgins et Jacqueline Moran, Roger Pigot, Daniel Hivernel, avec Madeleine Barbulet, Arlette Thomas, Daniel Mandaille, Pierre Leproux, Gaëtan Ojor, Raoul Marco, René Clermont, Maurice Nazil, Monique Morisi, Suzanne Stanley, Inès Denazaris, Gérard Gervais, Yves-Marie Morin, Evelyne Weissmann et Marcel Genia. Prise de son Jean Delanduc, assistante de production Olga Lancement. Réalisation Henri Soubéran.
Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 20 novembre 1955. Rappelons que deux volumes des œuvres de Georges Simenon viennent d'être publiés par les éditions Omnibus, Mes apprentissages, reportage 1931-1946, et Voyage autour du monde, qui réunit trois romans, Le train de Venise, Trois chambres à Manhattan, Le relais d'Alsace. Vous pourrez réécouter cette dramatique en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.